vous savez que j'ai déjà témoigné ici, on a fait un groupe ministère famille chrétienne. Et ce ministère, c'est pour essayer d'évangéliser nos frères et sœurs, nos familles qui ne croient pas. Et hier, on était quand même 9 croyants dans la famille. Et on s'est réunis à 9, on a fait une petite formation où on a parlé justement de comment connaître Jésus-Christ, comment être connu par lui. Et puis, Wardia a eu l'occasion aussi de prier l'après-midi. Et puis, on voit des choses qui se passent dans la famille. Donc, moi, je vous encourage à prier pour vos familles, pour qu'il y ait des conversions dans les familles. Alors, ce matin, le thème que j'ai choisi, c'est « Suis-je connu de Jésus ?» Alors, je vais déjà prier que notre grand Dieu, qui ce matin nous rassemble, parle dans chacun de nos cœurs, renouvelle nos pensées et accomplisse en nous toute sa volonté. Amen. Amen. Alors, peut-être allez-vous penser que le titre de la prédication de ce matin, « Suis-je connu de Jésus ?» a quelque chose de bizarre. En effet, Jésus, comme vous le savez, est Dieu. Et il connaît forcément toute chose, et il connaît chaque personne, et rien ne lui est caché. Il connaît même les pensées secrètes des hommes, en Chronique 28, verset 9. Alors, vous l'avez compris, ce n'est pas sur ce sens de connaître que nous allons réfléchir ce matin, mais sur le sens d'avoir fait une vraie relation, une vraie rencontre avec Jésus. Avoir créé avec lui une relation intime, profonde, authentique. Être comme un arbre enraciné en Christ, enraciné en lui. Alors je vous propose de lire ensemble le texte de Matthieu 7, versets 21 à 23. Alors, j'avoue que j'y ai réfléchi, ça m'a fortement interpellé ce texte, et j'y ai profondément réfléchi, et je l'ai médité, et j'ai fait de nombreuses recherches, et c'est donc le fruit de mes réflexions que j'aimerais vous partager ce matin. Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », eh bien, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Mais je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ah, c'est vrai, c'est troublant comme texte. Ce texte est très intéressant parce qu'il sort de la bouche même de Jésus, qu'il exprime la volonté de Dieu et qu'il s'adresse à des croyants qui, pour certains, seront reconnus par Jésus et d'autres qui seront rejetés. Frères, sœurs, ces personnes auxquelles s'adressent les paroles de Jésus, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, parce que nous prononçons les paroles « Seigneur, Seigneur ». Alors, je vous propose d'étudier ce texte selon les principes de l'herméneutique, qui est la science de l'interprétation de la Bible. Alors, si je sors un grand mot de savantologie, c'est parce que nous avons eu dans cette église une formation proposée par Perspective. Est-ce qu'il y en a qui ont participé à cette formation ? Oui, on était plusieurs, et c'était vraiment très très intéressant. Alors, il y a des outils qui sont mis à notre disposition pour ça. Tout d'abord, le contexte général de ce texte. Dans quel contexte ce texte a été prononcé ? Tout d'abord, posons-nous la question, à quelle occasion et dans quelles circonstances Jésus a-t-il prononcé ce texte ? En réalité, Jésus se trouve là en Galilée. Matthieu 5,1, voyant s'approcher de lui de grandes foules, Jésus monta sur la montagne et enseigna à ses disciples. Cet enseignement fait partie de ce que l'on appelle communément le sermon sur la montagne. En fait, c'était sur la colline. À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez de vie, car le règne des cieux est proche. Il appartient à ceux qui changent de vie, à celles et ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. » Jésus offre une nouvelle alternative à ses auditeurs. Hein, c'est quelque chose de nouveau, c'est vraiment des paroles nouvelles. Écoutez-moi, ouvrez vos cœurs et venez à moi. Voilà, ça c'est le contexte général de ce matin. Le contexte particulier, alors le texte de ce matin est précédé par deux courts messages importants pour la compréhension de l'enseignement de Jésus. Alors, si le Christ est venu sur terre, hein, vous savez qu'il s'est incarné, c'est avant tout pour sauver l'humanité perdue, lui faire connaître le chemin du royaume des cieux, lui faire savoir comment y entrer, afin qu'elle soit de plein pied dans la présence de Dieu. 1 Timothée 2,4, et ça c'est une phrase qu'il faut retenir, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés » et parviennent à la connaissance de la vérité. S'il n'y a qu'une seule chose que vous devez retenir, c'est ça ce matin. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En Matthieu 7,13, Jésus montre deux images. Des images qui sont très saisissantes et qui sont deux choix de vie. Il dit, il y a devant vous deux portes, deux chemins. La première est une porte étroite que l'on découvre en suivant un chemin resserré, très resserré. Ils sont, dit Jésus, difficiles à découvrir car ils nécessitent à la fois une ouverture de cœur, mais aussi un acte de foi. Ce sont la porte et le chemin qui mènent au royaume des cieux, au salut et à la vie éternelle. En Jean 10, verset 9, Jésus dit « Je suis la porte ». Hein, Jésus se qualifie directement de « Je suis la porte ». Il est la porte étroite, celle par laquelle il nous invite à entrer. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, c'est simple. Jésus affirme clairement « Il est la porte du salut, la seule par laquelle on peut entrer dans le royaume des cieux ». Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. En Jean 3, 36, « Dieu en montre le chemin ». Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ça, c'est le chemin de la foi. Voilà. On rentre par la porte de Jésus et le chemin pour y arriver, c'est la foi. Voilà, dit Jésus, le chemin resserré que vous devez emprunter et la porte étroite par laquelle vous devez entrer. Par contre, il les met en garde contre une autre porte. Celle-là, très large, hyper facile à trouver. C'est pourquoi beaucoup l'empruntent. C'est celle qui conduit à la perdition. Le chemin spacieux fait véritable autoroute du soleil, autoroute des vacances. Vous savez, quand on part dans le sud, tout le monde s'y engouffre. Lui, c'est un chemin qui est associé et qui mène directement à la mort éternelle. Le choix de cette voie ne nécessite aucun effort spécial, aucune recherche. Il ne faut rien faire. N'importe qui peut l'apprendre. C'est la voie royale pour tous les incrédules qui n'ont ni Dieu ni maître, pour les indifférents, pour les indécis et tous les religieux qui ne veulent pas passer par la porte étroite qui est Jésus-Christ. Deux portes, deux chemins, deux voies, Jésus place ses auditeurs devant un choix crucial à faire, devant une décision à prendre. Il y a peut-être des personnes ce matin qui sont là pour prendre une décision. Jésus rappelle les paroles de Dieu à son peuple lors de la sortie d'Égypte. Deutéronome 30, verset 19. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et Dieu dit « Choisis la vie afin de vivre. » Fais ce choix. Cette décision, ce choix, c'est aujourd'hui qu'il faut la faire. Pendant notre vie sur terre. Alors, ce matin, je vais prendre peut-être une comparaison que vous avez trouvée peut-être un petit peu facile. Notre vie, c'est comme un match de foot. Bon, ce matin, j'ai eu les remarques de Dominique et du frère Claude, parce que Nancy est en Ligue 2. Notre vie, c'est comme un match de foot. Tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti, eh bien, le score peut toujours changer, évoluer. Tant que nous vivons, tant que Jésus n'est pas revenu, eh bien, nous pouvons toujours changer nos choix. avons-nous fait un choix ce matin ? Et avons-nous fait surtout le bon choix ? À présent, Jésus met en garde ses auditeurs qui veulent rencontrer Dieu. Passer par Jésus-Christ et entrer dans le royaume des cieux. Il dit, attention, Matthieu 7, 15, « Méfiez-vous des faux prophètes. » Méfiez-vous-en. Jésus emploie un oxymore qui est une figure de style consistant à allier deux mots de sens contradictoires. Un prophète, c'est quelqu'un qui normalement parle de la part de Dieu pour apporter la vérité, la volonté de Dieu aux hommes. Un faux prophète, ça ne devrait pas exister. C'est quelqu'un qui véhicule le mensonge et qui cherche à détourner l'homme de la vérité enseignée par Jésus. En réalité, Jésus associe aux faux prophètes tous ceux qui ferment la porte et empêchent les hommes d'entrer dans le royaume de Dieu. Il désigne en particulier les religieux de son époque. Matthieu 23, verset 13. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès du royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, alors c'est déjà pas bien, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. » Jésus le dit clairement, les spécialistes de la loi et les pharisiens religieux n'entreront pas dans le royaume des cieux. Les croyants religieux sont toujours là, aujourd'hui, bien présents, sur Internet, dans les médias, et même dans les églises. Les faux prophètes, les légalistes religieux sont généralement des gens calculateurs et intelligents qui ont une apparence trompeuse. C'est ce que dit Jésus. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, ils se donnent l'apparence d'agneau. Vous savez, la brebis, c'est le symbole animal qui représente le disciple du Christ, celui qui est passé par la porte étroite. Ils parlent bien, sont séducteurs, persuasifs. L'extérieur est parfait, nous dit Jésus, mais au-dedans, à l'intérieur d'eux, ce sont des loups cruels, des ennemis du troupeau, qui dévorent sans pitié. Alors me direz-vous, comment les reconnaître ? Eh bien, Jésus nous donne un outil de discernement. Il compare chaque chrétien à un arbre fruitier. Et il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un bon arbre ne peut produire que de bons fruits, et un mauvais arbre que de mauvais fruits. Cueille-t-on des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces ? Ben non. Et vous avez compris cette belle image proposée par Jésus. En effet, un chrétien ne peut pas en même temps prêcher la liberté en Christ et vivre sous la loi. Ce n'est pas possible. Vivre dans le légalisme, les « tu dois », « il faut », les interdits, etc., c'est pas possible. Un chrétien ne peut pas prêcher l'unité et créer autour de lui des divisions. Il ne peut pas prêcher la vérité et vivre dans le mensonge. C'est impossible. Ainsi dit Jésus au verset 20, « c'est à leurs fruits, à leur façon de vivre, que vous les reconnaîtrez ». C'est comme ça qu'on va reconnaître ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Vous le voyez, Jésus nous donne beaucoup de clés pour comprendre le texte de ce matin. Mais avant de les utiliser, je souhaiterais faire une petite mise au point. C'est déjà que l'Église, ce n'est pas le royaume des cieux. Alors pourquoi je dis cela ? Parce que des fois, on confond les deux. Le royaume des cieux, c'est la sphère invisible, où Dieu règne, où sa volonté s'accomplit. Vous voyez, dans le royaume des cieux, ne peuvent rentrer dans le royaume des cieux que ceux qui sont convertis. Le royaume des cieux est déjà actuel, présent. Jésus nous dit, Luc 17, 21, « Le règne de Dieu a déjà commencé, il est en vous. » Voilà, il est en vous, c'est-à-dire que les gens qui sont convertis, qui ont reçu le Saint-Esprit, ils font déjà partie du royaume des cieux. Nous l'avons dit, on y entre par la porte étroite qui est Jésus-Christ. Dans le royaume des cieux, il n'y a que des croyants nés de nouveau. Par exemple, lorsque Nicodème, qui était un chef religieux juif, docteur de la loi, vient voir Jésus, il lui dit « Vraiment, Nicodème, je te l'assure, celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance, ne saurait voir le règne de Dieu, ce n'est pas possible. Donc il faut passer par la nouvelle naissance. » La seule réponse de Nicodème est « Mais comment un homme déjà vieux pourrait-il naître une seconde fois ?» Il est maître de la loi, hein. Il ne peut quand même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Et Jésus insiste, il dit « Vraiment, je te l'assure, répond Jésus, à moins de renaître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Renaître d'eau et d'esprit. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il y a une exigence, celle de vouloir changer de vie, passer par la porte étroite qui est Jésus-Christ, ouvrir et offrir son cœur à Jésus et accepter d'être transformé par le Saint-Esprit. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça. Alors l'Église, elle, c'est autre chose. L'Église, c'est le corps du Christ, c'est la communauté de tous les croyants unis dans la même foi et dirigée par le Saint-Esprit. Mais pourtant, force est de constater que celles et ceux qui fréquentent l'Église, qui participent à ses activités, viennent au culte, viennent dans l'Église, et ne sont pas tous, selon cette définition, ne sont pas tous des croyants convaincus. Hein. Dans l'Église de Vendeuvre, par exemple, certains ne sont pas nés de nouveau, les enfants, les adultes, d'autres sont en recherche, d'autres s'interrogent. Il n'y a personne à l'entrée de la salle de culte ce matin qui vous a interrogé sur votre nouvelle naissance. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Non. Il y avait Jean-Haut à l'entrée qui vous a accueilli en vous disant « Vous êtes né de nouveau? Parce que si vous n'êtes pas né de nouveau, il vaut mieux sortir. » Non. Est-ce qu'on vous a dit ça? Non. Donc, l'Église, c'est une terre d'accueil spirituel pour encourager toutes celles et ceux qui veulent entrer dans le royaume des cieux. Alors, cette courte précision est importante pour bien comprendre les paroles de Jésus. Il n'y a pas les mêmes exigences pour faire partie de l'Église et du royaume des cieux. Dans l'Église se côtoient donc celles et ceux qui sont déjà dans le royaume des cieux et celles et ceux qui ne le sont pas encore et qui peut-être croient l'être. Il y a peut-être des personnes parmi nous qui pensent être converties qui ne le sont pas. Pour entrer dans le royaume des cieux, prévient Jésus, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père Céleste. Hein, ça, ce sont les mots et les actes. Les mots, c'est « Seigneur, Seigneur ». Les actes, c'est « Je suis passé par la porte étroite ». Tout d'abord, posons-nous la question simple et élémentaire. Qui dans le monde dit « Seigneur, Seigneur » ? Sont-ce les athées, les incrédules, les non-croyants ? Moi, je ne le pense pas, hein. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dans la rue dire « Ah, Seigneur, Seigneur !» Non. Normalement, celles et ceux qui appellent Jésus « Seigneur » ou « Seigneur, Seigneur », ce sont des croyants. Celles et ceux qui ont un minimum de connaissance de Jésus. Par exemple, dans notre Église, nous avons l'habitude d'appeler Jésus « Seigneur » quand nous prions, même si nous ne sommes pas passés par la porte étroite qui est Jésus-Christ. Nous pouvons chanter, louer en disant « Seigneur ». Je ne pense pas que tous ceux il y a des gens qui ne sont pas convertis et qui lèvent les bras et qui disent « Seigneur ». Nous tous qui sommes ici ce matin, nous sommes donc tous concernés. Personnellement, l'expression « Seigneur », ce n'est pas un simple titre honorifique. C'est au contraire la marque d'un pouvoir, la reconnaissance d'une autorité. Hein, on l'a chanté ce matin. Ainsi, si je crois que Jésus est Dieu, vous croyez que Jésus est Dieu, eh bien, on lui reconnaît l'autorité créatrice. Il a, par sa parole, créé l'univers, la terre, toute créature. Il m'a personnellement créé. Voilà, Dieu est créateur, je lui reconnais cette autorité. Si je crois que Jésus est sauveur, eh bien, je le reconnais autorité sur ma vie pécheresse, ma vie passée. C'est lui qui m'a libéré de mon péché, c'est lui qui m'a ouvert la porte d'entrée. Si je crois que Jésus est Seigneur, eh bien c'est que je le reconnais comme autorité sur ma nouvelle existence. Je lui remets les rênes de ma vie, il a autorité sur mes décisions et tout ce que j'entreprends. Les mots ont un sens, les mots ont un sens. Seigneur, ça veut dire quelque chose. Quand on prononce le mot Seigneur, ce n'est pas simplement un mot comme ça. En Jean 10, Jésus compare le royaume des cieux à une bergerie. Il dit « Le bon berger, qui est Jésus, est entré lui le premier par la porte. et les brebis l'ont suivi. Elles ont reconnu l'autorité du bon berger. Les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Les brebis le suivent. Pourquoi elles le suivent? Parce qu'elles connaissent sa voix. Voilà. Quand vous parlez à Jésus, vous savez que c'est lui qui vous répond, ou pas? Frères, sœurs, pour Jésus, non seulement les mots ont un sens, mais bien plus, ils ont de la valeur. Lorsqu'on emploie le mot « Seigneur », on reconnaît l'autorité de Jésus sur sa vie, et cela crée une intimité avec lui. Nous sommes ses brebis, il nous connaît, et nous connaissons le timbre de sa voix. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, peut-être c'est un vieux film, alors, mais comme je ne suis pas tout jeune, vous avez vu le film peut-être « Ali Baba » et les 40 voleurs. Vous savez, pour ouvrir le flanc de la montagne derrière lequel se trouvait le trésor des voleurs, bah, il fallait prononcer la phrase magique « Sésame, ouvre-toi ». Vous vous rappelez de ça? Eh bien, Jésus dit clairement que toutes les expressions le concernant, qui ne reposent pas sur un fondement vrai, solide, authentique, n'ouvriront pas la porte du royaume des cieux. Hein, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour que la porte s'ouvre. Jésus ajoute un second critère pour entrer dans le royaume. Entrera seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Alors, frère et soeur, je ne sais pas si vous êtes comme moi ce matin, mais j'ai parfois des soucis avec la volonté de Dieu. Moi, je me dis, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Qu'est-ce que c'est? Suis-je bien dans sa volonté? Et parfois, avouons-le, nous confondons volonté de Dieu et vie parfaite. Vous voyez, je ne suis pas allé au culte dimanche, oh là là, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Je ne suis pas allé visiter le frère Maurice qui est malade, oh là là, c'est terrible. Je suis en conflit avec la sœur Gertrude, tout cela n'est pas bien. C'est vrai, c'est pas bien, certes, mais ce sont nos manquements qu'il convient de corriger. Vous voyez, je dis toujours à Wardia, si on était parfait, on serait Dieu, hein. La volonté de Dieu, c'est tout autre chose. En entrant dans le monde, Hébreux 10, verset 7, Jésus dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Jésus exprime à Dieu sa volonté d'accomplir sa mission, enfin, la mission que Dieu a préparée d'avance pour lui. Sauver l'humanité perdue. Voilà la volonté de Dieu. Être dans la volonté de Dieu, c'est entrer dans le plan de vie que Dieu a préparé pour nous. Hein, c'est ça la volonté de Dieu. Ce plan de vie a pour chacun de nous deux volets. Une volonté générale pour tous les hommes. Hein, par exemple, tous ici, on a la même volonté générale. Et puis une volonté individuelle pour chacun de nous. Hein, être dans la volonté de Dieu, c'est entrer dans ce double plan de vie. Alors la volonté générale concernant tout le monde, est résumé donc par ce verset de Paul à Timothée que je vous ai demandé de retenir. Vous pouvez le dire? Alors, vous avez bien remarqué que Dieu veut, c'est sa volonté, hein, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà, ça c'est la condition générale, la volonté générale. Nous sommes dans la volonté de Dieu si nous approprions ce texte. Je suis sauvé car je crois de tout mon cœur que Jésus est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité et que je suis ressuscité à une vie nouvelle avec lui. Et puis, la Bible est la seule vraie parole de Dieu inspirée par l'Esprit de Jésus. Voilà. Donc, la volonté, je suis sauvé, et la connaissance, c'est la parole de Dieu. La volonté individuelle, puisque le divin potier a créé des vases différents, il a préparé aussi un plan de vie différent pour chacun. Éphésiens 2, 10. Ce que nous sommes, nous le devons bien sûr à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui, dans l'unité avec lui, les bonnes actions qu'il a préparées d'avance pour vous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Voilà. Donc, les paroles de Jésus deviennent donc, j'espère pour vous, en tout cas pour moi, plus claires. celles et ceux qui reconnaissent l'autorité seigneuriale de Jésus et qui sont entrés dans la volonté de Dieu ont leur place dans le royaume. Les autres, non. Frères, sœurs, entrer dans la volonté de Dieu, c'est déjà la comprendre. Des fois, on dit, mais j'arrive pas à comprendre vraiment la volonté de Dieu. Bah, entre dans la volonté de Dieu et tu vas la comprendre. Psaume 40, verset 9 de David, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu. » Voilà, c'est ça. C'est « Seigneur, je ne comprends pas vraiment toute ta volonté, mais je veux y entrer. Je veux entrer en ta volonté, et là, je vais la comprendre. » Mais Jésus, lui, se projette encore plus loin. Il se projette en ce jour-là. Cette expression particulière désigne le jour du jugement dernier. Voilà, ce jour où Dieu jugera par Jésus-Christ chaque homme et chaque femme. Nous passerons tous en jugement. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors dit Jésus, je leur répondrai ouvertement, mais je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Alors cette parole de Jésus appelle deux remarques. Les personnes qui paraissent en jugement devant Jésus, elles apportent des arguments de poids qui pourraient convaincre n'importe quel tribunal humain. Imaginez, ils ont prophétisé par le nom de Jésus, ils ont chassé des démons en son nom, ils ont fait des miracles en son nom. Pourtant, c'est surprenant quand même, parce que Jésus ne les connaît pas. Alors moi, j'ai un peu peur, parce que c'est vrai, je parle, et je me dis, mais est-ce que je suis concerné ? C'est très surprenant, mais s'il ne les connaît pas, il connaît parfaitement les motivations de chacun. Jean 5, 25. Jésus n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car lui, il connaissait le fond de leur cœur. Il sait pertinemment ceux qui sont sincères, ceux qui sont convertis, ceux qui ne le sont pas. Manifestement, ces personnes n'avaient pas de bonne motivation, car il ajoute « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ceux, frères et sœurs, qui commettent l'iniquité sont ceux qui ont l'esprit du monde, car le monde fait le mal en appelant bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Alors que ceux qui ont l'esprit de Dieu appellent le bien bien et le mal mal. Voilà, il faut rétablir les choses. On peut s'interroger sur ces personnes. Appartiennent-elles vraiment à Dieu ? 2 Timothée 2, 19, « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. » Voilà, quand on affirme qu'on appartient au Seigneur, qu'on est né de nouveau, qu'on est des nouvelles créatures, eh ben, on a envie de faire le bien que Dieu nous inspire. La deuxième remarque, ces personnes opposent avec assurance à Jésus leurs œuvres. Et elles disent ce qu'elles ont fait. Jésus lui répond sur l'être. Qui êtes-vous ? Voilà, eux ils disent, regardez tout ce qu'on a fait. Et Jésus il dit, mais qui êtes-vous ? Voilà, lui il pense plutôt à l'être. Je ne vous connais pas. D'ailleurs, je ne vous ai jamais connu. En général, les croyants religieux pensent que leurs actions, leurs bonnes œuvres, les rapprochent de Dieu, ce qui est faux. L'apôtre Paul, qui a été un religieux juif avant sa conversion, les décrit de cette façon. Romains 10, verset 2. Il dit d'eux, « Ils ont un zèle ardent pour Dieu, mais il leur manque le discernement. En méconnaissant la manière dont Dieu déclare les hommes justes et en cherchant à être déclarés justes par leurs propres moyens, ils ne se sont pas soumis à Dieu en acceptant le moyen par lequel il nous déclare juste. » Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer par la porte étroite, ben, ils cherchent d'autres moyens de rentrer. Frères, sœurs, pour Dieu, l'être passe avant le faire, l'obéissance à sa volonté avant tous nos efforts et nos sacrifices. Ces croyants qui cherchent à se défendre et à impressionner Jésus par leurs œuvres charismatiques, eh ben, sont renvoyés aux exigences du royaume. Qui êtes-vous ? Je ne vous ai jamais connu. Ces personnes sont manifestement des croyants religieux. Ils croient en Dieu, à Jésus, mais ne sont pas entrés par la porte étroite qui est Jésus-Christ. Alors, qui sont-ils dans nos églises ? En premier, on l'a cité, hein, ce sont les croyants indécis, ceux qui n'ont pas encore pris la décision d'entrer par la porte étroite qui est Jésus. Ils sont encore sur le seuil, ils viennent au culte, ils aiment l'Église, ils participent aux grands événements religieux, mais n'ont pas vraiment de relation d'intimité avec Jésus. Et moi, je les invite ce matin à prendre des décisions, parce que vous savez dans quel temps nous vivons. Et puis, deuxièmement, les croyants passés par une conversion intellectuelle. Avec leur intelligence, ces croyants ont compris le puissant message de Jésus. Ils l'ont intégré. Ils veulent suivre et servir Jésus sans passer par la porte étroite. Matthieu 11, 38. « Celui qui ne se charge pas de sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. » Donc, il y a des exigences pour l'entrée. Vous savez, j'écoutais sur LCI, parce que c'est la seule chaîne que j'ai dans mon bureau, donc j'écoutais sur LCI une émission où intervenait Luc Ferry, qui est un grand philosophe, et puis qui est aussi un ancien ministre. Et il y a un moment, j'ai levé la tête, il a parlé de la Bible, de Jésus-Christ, avec une telle justesse, une telle assurance, que j'ai pensé, gloire à Dieu, cet homme est converti. Quel ne fut pas mon étonnement lorsqu'il a conclu ironiquement « Je ne crois pas, Dieu m'en préserve, je suis athée. » Alors là, je suis tombé de ma chaise, j'ai dit « Mais c'est pas... » Le discours qu'il a tenu, on aurait pu le tenir à ma place, à la chaire, dans l'église. Hein. Lui a dit au département qu'il ne croyait pas, mais un autre aurait pu dire qu'il croyait. Ces conversions intellectuelles touchent, me semble-t-il, plus particulièrement deux catégories de personnes. La première, c'est celles et ceux qui sont intellectuels, hein, qui lisent et comprennent rapidement le message. Et puis, celles et ceux qui sont nés et ont vécu dans des familles chrétiennes, ils ont entendu le message de Jésus depuis leur prime enfance. La conversion vraie, authentique, eh bien, tant pis si je me répète, mais peut bien sûr passer par l'intelligence. Mais la décision finale vient toujours du cœur. Voilà. C'est pas par l'intelligence qu'on... Alors, ça, bien sûr, il faut comprendre le message. Si on ne comprend pas, c'est embêtant. Il faut comprendre le message, mais il faut que la décision soit prise par le cœur. Romains 10, verset 9. « Si de ta bouche tu confesses Jésus est Seigneur, et si de tout ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est bien du cœur que ça vient. Troisièmement, les croyants aussi passés par une conversion émotionnelle. Ça, on en rencontre souvent. Ce sont toutes celles et ceux qui, lors d'un chant, d'un culte, un témoignage, ont été touchés dans leurs émotions profondes par le beau message de Jésus. Ils y adhèrent, ils accueillent Jésus avec joie, mais là encore, la décision vient des sentiments, des émotions, et non du cœur. Vous savez, dans la parole du semeur, enfin, si ça vous dit quelque chose, le semeur qui sème les graines, eh bien Jésus dit que ces personnes n'ont pas de racines. Ils n'ont pas de racines puisque ça n'a pas été pris par le cœur. L'inconvénient de ces fausses conversions, c'est que les personnes qui les vivent ne savent parfois pas qu'elles sont faussement converties, qu'elles n'ont pas reçu le Saint-Esprit qui est le sceau d'une authentique nouvelle naissance. Romains 8, 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Ces personnes doivent donc faire par elles-mêmes, pallier à l'absence du Saint-Esprit par leur propre force. C'est ça qu'on appelle le zèle religieux, puisqu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Nous, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous dirige, qui nous guide, qui fait, nous aide à faire. Ils ne l'ont pas. L'autre gros inconvénient de l'absence du Saint-Esprit, c'est pour le religieux l'impossibilité de créer une véritable relation avec Jésus. Alors pourquoi ? Jean 4, 24 dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'esprit et en vérité. » Donc sans l'esprit saint, on ne peut pas avoir une vie relationnelle vraie avec Jésus. Alors vous l'aurez remarqué, à aucun moment Jésus ne parle de sortir du royaume. Hein, il ne dit pas « ceux qui y sont, il y en a qui vont gicler ». Non, il ne parle pas de ça. Ces personnes religieuses sont donc bien en dehors du royaume et c'est pour cela qu'elles ne sont pas connues de Jésus. Alors tout le monde, je suppose, connaît Emmanuel Macron. Il y a des personnes ici qui ne connaissent pas Emmanuel Macron. On en pense ce qu'on en veut. Hein. C'est pas, je ne fais pas un meeting politique. Hein. Mais si vous connaissez tous Emmanuel Macron, ben, essayez de vous pointer à la porte de l'Élysée et dire « Je rentre parce que je connais Emmanuel ». Qu'est-ce que va vous dire le portier ? On va dire « Mais il ne vous connaît pas ». Il ne vous connaît pas, lui. Pourquoi vous allez rentrer à l'Élysée ? Ben, moi, je dis ce matin, je ne veux faire peur à personne. Ce n'est pas le but de la prédication de ce matin. Plutôt nous rassurer. Mais il est bon que chacun puisse s'examiner afin de ne pas risquer, en ce jour-là, d'entendre Jésus dire ben, « Je ne te connais pas ». Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un tout petit temps de prière pour conclure. Et Seigneur, tes paroles sont des paroles de vérité. Seigneur, tu nous dis que tu peux nous connaître ou ne pas nous connaître. Seigneur, examine-nous, sonde notre cœur, vois, Seigneur, si nous sommes sur une bonne voie ou une mauvaise voie. Vois si nous te connaissons, nous sommes entrés par la porte étroite. Si nous sommes, Seigneur, dans ta présence, si vraiment, Seigneur, nous sommes morts à nous-mêmes et ressuscités avec toi en Christ. Seigneur, je te prie pour ceux qui, dans cette salle, Seigneur, ne sont pas encore convertis. Et je te prie pour eux, Seigneur, que tu puisses vraiment leur ouvrir le cœur et que la porte s'ouvre pour eux. Et que, en ce jour-là, tu les accueilles dans tes bras d'amour et que tu puisses leur dire « Mais oui, je te connais, toi, je te connais ». Merci Seigneur pour la bonne nouvelle de ton salut. Merci Seigneur pour les bienfaits que tu nous accordes chaque jour. Gloire à toi mon Dieu. Amen. Amen.